Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Séisme et tsunami en Indonésie ont fait de plus de 800 morts. Emmanuel Macron en visite à Saint-Martin un an après le passage du cyclone Irma ou la victoire en golf de l'Europe face aux États-Unis lors de la Ryder Cup. Les actualités de ce week-end ne manquent pas, mais l'actualité c'est aussi en ce jour privilège de la vie de l'Église de prendre un peu de hauteur. La fête de Sainte-Thérèse de Lisieux, une sainte dont les reliques ont déjà voyagé dans plus de 60 pays dans le monde et qui ont attiré plusieurs millions de personnes. Portrait. Trésor de la vie spirituelle, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce jour. Voilà, deuxième émission de cette grande série annuelle qui succède à la série qu'on avait fait avec les Carmes de Toulouse sur la prière. Et ce matin, c'est à nouveau un carme, mais il n'y aura pas que des carmes pour cette série cette année. Maximilien Marie, vous êtes religieux carme du couvent de Toulouse. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Donc, trésor de la vie spirituelle, je rappelle un peu le propos, c'est le premier lundi de chaque mois, c'est donc une émission qui est en partenariat avec l'Institut Jean de la Croix, qui est en lien avec l'Institut catholique de Toulouse, qui est, allez, comment vous résumeriez, je vais vous aider, et vous compléterez, formation en spiritualité chrétienne, et ce en s'inspirant en grandement de la spiritualité carmélitaine, c'est bien ça?
C'est ça.
Voilà. Donc, en partenariat avec l'Institut Jean de la Croix, on va tout au long de l'année faire des zooms, on va dire, sur les grandes familles spirituelles, voilà, les grands trésors de la vie de l'Église, de son histoire, et sur des grandes figures de sainteté, en essayant à chaque fois d'alterner l'un ou l'autre. Alors aujourd'hui, on commence avec Sainte-Thérèse de Lisieux, qui est en passe, enfin, qui, on va dire, c'est la star du moment. Hein. On va essayer donc de raconter sa vie, de voir dans quel contexte elle a émergé. On va essayer de voir peut-être le sens de cette sainteté pour son temps et pour notre temps. Ma question en préambule, on se disait avant l'émission que c'était bien de commencer par faire écho de l'initiative du pape François, qui donc récemment a demandé qu'au mois d'octobre, tous les catholiques dans le monde prient chaque jour un chapelet, se confient à la Vierge et à Saint-Michel-Archange. Voilà, initiative semble-t-il assez exceptionnelle, et ce compte tenu du contexte de crise terrible que traverse l'Église. Le pape, je crois, à plusieurs reprises a parlé du risque que le diable divise profondément l'Église. Est-ce que vous avez un commentaire à cette initiative du pape François ?
Oui, je pense qu'on traverse une crise qui est sans doute sans précédent par son ampleur, par sa profondeur et aussi par le fait qu'on ne sait pas dans quelle mesure elle peut continuer, dans quelle mesure elle va se propager et quand est-ce qu'elle pourra s'arrêter. Et donc, on est là dans une situation un peu inédite et la gravité des faits est telle qu'on a beaucoup de mal à répondre et à trouver une posture qui soit juste. Alors la posture la plus juste, bien sûr, c'est la compassion avec toutes les victimes. Mais que peut-on faire devant une telle souffrance, devant de tels péchés ? On reste sans voix. Et donc l'unique voix qui nous reste véritablement, c'est la prière. C'est ce que dit le Saint-Père. Et devant ce tsunami, de tout faire pour rester unis dans le Seigneur, c'est la vraie réponse.
Voilà, initiative dont on reparlera certainement pour l'expliciter et puis probablement pour l'accompagner. C'est quand même aussi en partie le rôle d'une radio chrétienne. L'autre question un peu comme préambule, c'est ce que je disais dans le teasing de l'émission de ce matin. On en a déjà parlé une ou deux fois dans le cadre de cette émission et compte tenu du contexte de crise peut-être de l'Église, c'est une question qui peut être intéressante. Votre conviction, comme celle de d'autres, évidemment, vous n'êtes pas le seul, c'est que à chaque époque, Dieu envoie une réponse à travers une personne et un saint, et en l'occurrence, donc, Thérèse de Lisieux, on développera pourquoi. Est-ce que vous pouvez expliquer peut-être cette manière que vous avez compris d'accompagner l'histoire et d'allumer tout d'un coup, de donner une lumière extrêmement puissante dans chaque contexte?
Oui, dans l'Apocalypse, vous savez que l'Apocalypse commence par sept lettres que Saint Jean écrit aux églises et qui se conclut toutes par que celui qui lise entende ce que l'Esprit dit aux églises. L'Esprit parle à l'Église. Et à chaque époque, puisque l'Esprit de Dieu est au cœur de son Église, l'Esprit du Christ accompagne son Église, à chaque époque, l'Esprit parle par une figure de sainteté. On a Sainte Thérèse de Lisieux dont on va parler, on a Saint François d'assises en son époque. Et il parle pas seulement par des grandes figures de sainteté, il parle par des petits, il parle par des circonstances, il parle par, le, par des documents du Saint-Père, par des prises de parole du Saint-Père.
Mais on peut se dire que tout a été dit par le Christ, en fait. C'est quoi ? C'est comme un éclairage particulier qui est donné à chaque époque ou...
Tout a été dit, mais d'abord il faut continuer à déployer ce que le Christ a dit, et puis surtout il faut le traduire dans le langage d'aujourd'hui, dans les circonstances actuelles. Et c'est pour cela que l'Esprit travaille, l'Esprit continue à travailler et à déployer la nouveauté de Dieu à chaque époque. Et c'est ça qui est beau.
Alors, l'époque de sainte Thérèse de Lisieux, on va se plonger dedans. Est-ce que peut-être vous pouvez redonner les dates de naissance et de mort de sainte Thérèse de Lisieux pour qu'on ait en tête un peu où c'est, quand ça se situe ?
Thérèse est née en Normandie, dans une petite ville qui s'appelle Alençon, en 1873, donc à la fin du 19e siècle. Elle est morte 24 ans plus tard, en 1897, à Lisieux, donc toujours en Normandie.
Donc ça, c'est pour les dates de naissance et de mort. Alors, on va essayer de se plonger un peu dans le contexte historique, ecclésial et familial. Il ne s'agit pas d'être barbant, mais peut-être justement d'arriver à montrer au milieu de quoi cette étoile filante, je crois que c'est un pape qui avait utilisé cette expression pour elle, cette étoile filante est passée dans le ciel de l'Église. Le contexte politique, donc on sort de la Révolution française, oui. Hein, parce qu'elle a quand même considérablement marqué. Et alors, les deux points sur lesquels vous vouliez insister, si j'ai bien compris, c'est il faut avoir en tête en fait l'instabilité des régimes politiques au XIXe siècle, et puis c'est aussi une France coloniale.
Alors c'est le siècle des révolutions, hein. Le XIXe siècle, c'est vraiment le grand siècle des révolutions, avec le tsunami qui a été la Révolution française en 1789, et puis par la suite tout un ensemble de régimes qui se sont succédés quasiment sans transition à chaque fois. On passe d'une extrême à l'autre et les Français sont souvent déboussolés. On commence par toute la Première République qui a suivi la Révolution avec la Terreur. Et puis arrive Bonaparte, le Premier Empire, une toute autre ambiance. En 1815, Bonaparte est renversé, c'est la Révolution.
Donc, la Restauration.
La Restauration. Donc on revient à une forme de monarchie avec Louis XVIII. Une monarchie qui ne dure pas très longtemps parce qu'on passe assez rapidement à Charles X, puis à Louis-Philippe, qui n'est plus le roi de France, mais le roi des Français. C'est déjà l'avènement de la bourgeoisie. Et puis la Seconde Révolution, et puis le Second Empire, à nouveau un Napoléon, un autre, mais à nouveau un Napoléon, et puis la Troisième République. Vous voyez qu'on passe à chaque fois d'une République à la monarchie, à l'Empire, et puis au retour à la République, retour à l'Empire. On voit bien une succession de régimes politiques qui sont très différents les uns des autres et qui font de ce siècle une période très instable.
Voilà, sans compter peut-être aussi la Commune et autres épisodes révolutionnaires. Les colonies aussi. Voilà, la France est une grande puissance coloniale qui mène de nombreuses guerres et qui, on va dire, qui est presque en concurrence donc avec l'Empire britannique. Ça aussi, c'est important. Dans la vie de Thérèse de Lisieux, ça aura quelque impact. En tout cas, ça aide à la comprendre.
Oui, ça aide à comprendre cette époque. Vous savez que c'est l'époque qui est marquée par les deux révolutions industrielles qui ont amené des transformations énormes dans la société, notamment... un renouvellement dans les transports, hein, grâce notamment à la vapeur. Et puis, au niveau des armes militaires aussi, il y a eu un grand développement, d'où une suprématie évidente des armées européennes sur toutes les autres armées du monde. Et notamment en Afrique, on a pu s'y déplacer, d'une part. Et puis, d'autre part, on a pu, malheureusement, peut-être très rapidement, en tout cas, écraser l'opposition qui était à ce moment-là... proposer et donc s'installer en Afrique. Et ça a été très, très rapide. Et pendant tout le 19e siècle, notamment les Anglais et les Français se sont emparés de l'Afrique.
Donc ça, c'est le contexte colonial. Peut-être la dernière chose qui fait écho au développement industriel, c'est que c'est l'émergence donc de plus en plus importante d'une culture bourgeoise et donc d'une ambiance tout à la fois... un développement des affaires, un certain goût de l'argent et une ambiance un peu ce qu'on appelle scientiste. Donc développement économique et développement scientifique.
Oui, oui.
Est-ce que vous pouvez expliquer peut-être ce que ça veut dire que scientiste ?
Alors, on le verra surtout dans la deuxième partie, on réfléchira sur la signification de fond. Ce qui est très important, c'est de comprendre que c'est vraiment une période d'explosion. Au niveau des sciences, c'est impressionnant. Bien sûr, il y a la figure de Pasteur qui est très significative, mais il y a tout un ensemble de développements. Et
machine à vapeur, ligne de chemin de fer, téléphone, voilà. Voiture à vapeur, début du cinéma, aviation, et j'en passe.
Voilà, ça c'est la révolution industrielle qui vraiment transforme le quotidien des Français, tout particulièrement de la classe bourgeoise, hein, tout particulièrement des gens qui ont de l'argent, qui transforme négativement le quotidien des gens les plus pauvres, hein, parce qu'on note un exode rural très important, les villes deviennent de plus en plus grosses, c'est la constitution du prolétariat, l'avènement du socialisme. Hein, on voit bien à travers tous les ouvrages, notamment de Victor Hugo, de Stendhal, à quel point la pauvreté se déploie dans cette période-là.
On va dire ça assez rapidement. Donc pour le contexte politique et social, alors si on doit parler un peu de l'Église à cette époque, dans quelle Église Thérèse de Lisieux grandit? C'est une église, ce que j'en ai compris, qui reste un peu traumatisée par la Révolution française quand même, et qui après donc vivra la séparation de l'Église et de l'État. Et au milieu de ça, donc un renouveau de l'Église en termes de vocation et de congrégation religieuse, et en même temps des relations tendues avec la société française. Alors comment il commençait par illustrer peut-être les tensions entre l'Église et la société?
Bon, c'est une période complexe et riche. Comme dans tous les plans de ce 19e siècle, qui en fait est passionnant. Hein. Il est peu connu, il est mal aimé, mais il est passionnant. Après la Révolution française, il y a une résilience très très forte de l'Église de France. La terreur est terrible, bien sûr, comme son nom l'indique. Il y a beaucoup de prêtres qui s'enfuient, il y a beaucoup de prêtres qui ne tiennent pas la route. Et puis finalement, avec le retour d'un climat un petit peu plus positif, le retour est très fort. Avec énormément de vocations religieuses. On parle de 200 000 prises de voile au 19e siècle pour les religieuses. En 1832, il y avait 2400 ordinations en France, c'est-à-dire 20 fois plus que cette année, par exemple. Donc c'est vraiment un retour très, très, très important. Mais en même temps, il y a cette instabilité politique. Il y a l'avènement du socialisme dans bien des pays. Et puis le développement du régime républicain qui, à la base, n'est pas le régime que soutiennent les catholiques de France. Et donc, il y a une grande tension entre l'instauration de ce régime, et on sent bien que, surtout à la fin du XIXe siècle, ce régime va durer, et le positionnement des catholiques de France.
Alors, parlez peut-être de quelques grands textes romains qui peuvent aider
à
comprendre.
Les grands textes romains vont se positionner sur une autre logique, c'est surtout de répondre aux tentations de rationalisme, c'est-à-dire quand la raison domine tout et quand le doute s'installe, de libéralisme, de socialisme. Le Saint-Père qui voit ces grands courants s'installer dans la société, et notamment dans la société européenne, répond par une encyclique qui s'appelle Quanta Cura en 1864, assortie d'un syllabus par lequel il vient à condamner tous ces grands mouvements d'une manière assez forte, assez virulente. Et derrière, il y a la condamnation de la franc-maçonnerie qui pointe.
On y reviendra hein, quand on verra la réponse qui a été Sainte Thérèse de Lisieux. Alors si on doit finir par le contexte familial, je vous lance et puis je vous laisse compléter. Thérèse de Lisieux donc grandit dans une famille nombreuse, une famille très aimante. J'ai souvenir comme ça d'une phrase du père Bernard Peyrousse, qui est un prêtre de la communauté de l'Emmanuel, qui a pas mal écrit, entre autres, sur Sainte Thérèse de Lisieux, je crois, et qui disait « Elle a pompé l'amour, ce gosse ». Il avait un accent du sud comme ça, qui laisse entendre, en tout cas, le grand amour qu'il y avait dans sa famille. Donc, père horloger, famille bourgeoise, comment vous réciteriez peut-être plus précisément la famille dans laquelle elle grandit?
Oui, une vraie famille bourgeoise. Le père horloger, comme vous l'avez dit. La maman était dentelière. Elle avait une petite entreprise qu'elle gérait elle-même avec plusieurs employés. Et puis, ce qui permet de comprendre un petit peu dans quel milieu Thérèse a vécu, c'est malheureusement le décès de sa maman quand elle était toute enfant. Et elle s'est retrouvée donc avec son papa et ses 5 sœurs. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'à ce moment-là, M. Martin, Saint-Louis Martin, a décidé de déménager. Ils ont quitté Alençon, ils se sont rendus à Lisieux, et lui a tout simplement arrêté de travailler. Il était rentier. Il pouvait vivre donc avec l'argent qu'il avait gagné, que son épouse avait gagné, et il s'est occupé de ses enfants dans ce petit cocon qu'il faut visiter parce que c'est vraiment c'est très significatif. On sent bien toute l'ambiance du 19e siècle, très romantique, très chaleureuse en même temps, que sont les Buissonnets. C'est la maison où ils ont vécu, c'est la maison où Thérèse a passé toute son enfance.
Qu'est-ce qu'on sait de la manière dont il recevait ce contexte politique et social qu'on a décrit ou la situation de l'Église à l'époque? Est-ce qu'on a des traces de conversations familiales ou est-ce qu'il vivait un peu en dehors de cela?
Mais on sait que Isidore Guérin, donc, était l'oncle maternel de la petite Thérèse. Isidore Guérin, lui, était très engagé dans la vie publique de Lisieux. Et il était pharmacien et puis il était éditorialiste dans un journal du coin. Et il s'engageait de manière très forte comme catholique de son temps, hein, c'est-à-dire surtout
les
bourgeois, plutôt royaliste, voilà, donc franchement très à droite. Mais Louis Martin, quant à lui, il était un petit peu hors de tous ces débats-là. Il était, je crois, très blessé par la mort de son épouse, très préoccupé par l'éducation de ses filles. Et puis c'était un homme intérieur, c'était plutôt un homme timide d'ailleurs. Et donc il ne s'en préoccupait pas trop, il ne s'engageait pas trop sur ces questions-là.
Et alors en préparant l'émission et en lisant les documents que vous m'avez fournis, vous disiez aussi qu'en fait ça intéresse de Lisieux, c'est pareil aussi, ça apparaît pas beaucoup dans ses écrits.
Oui.
C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se désintéressait de la vie autour d'elle ou qui était tellement intérieur ou focalisé sur Dieu que je ne sais pas comment on peut comprendre cela.
Je crois qu'elle était centrée sur le Seigneur. Je crois qu'elle portait l'Église dans sa prière, qu'elle portait le monde dans sa prière, mais qu'elle était focalisée sur le Christ, oui.
On va faire une première pause, puis on va vous retrouver pour continuer à parler de Sainte Thérèse de Lisieux, qui est fêtée aujourd'hui dans toute l'Église, voilà, dans le monde, pour cette émission Trésor de la vie spirituelle, en partenariat avec l'Institut Jean de la Croix de l'Institut catholique de Toulouse.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Trésor de la vie spirituelle, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce jour, deuxième émission de cette nouvelle grande série annuelle dès lundi, premier lundi de chaque mois, donc en partenariat avec l'Institut Jean de la Croix, comme je l'ai déjà dit, au sein de l'Institut catholique de Toulouse, l'Institut Jean de la Croix qui propose une formation en spiritualité chrétienne, on va dire pour tous, particulièrement en mettant l'accent sur la spiritualité, ce qu'on appelle la spiritualité carmélitaine, du Carmel. Ça tombe bien, en tout cas parce qu'aujourd'hui, nous sommes donc avec le frère Maximilien Marie, qui est religieux carme du couvent de Toulouse, pour parler donc de Sainte-Thérèse de Lisieux, puisque, pardon pour ceux qui étaient là au début de l'émission, on essaiera d'alterner dans cette grande série annuelle à la fois des zooms sur des grandes familles spirituelles, et enfin les trésors voilà, des grandes familles spirituelles de la vie de l'Église, et certaines figures de sainteté. On commence par Sainte-Thérèse de Lisieux, fêtée en ce jour. Voilà pour cette longue introduction. Alors, le génie de Thérèse, comme une manière que Dieu a de répondre aux grands défis de son temps, vous vouliez commencer par le jansénisme. Alors, la première chose, peut-être, c'est de redire ce qu'est le jansénisme, peut-être bien connu de certains et moins de d'autres, mais ça peut toujours être utile d'arriver à démasquer cette dérive dont on n'est pas toujours complètement exempt encore aujourd'hui.
Oui, c'est une dérive qui peut être encore un petit peu présente, qui est née au XVIIe siècle en France, qui est une certaine interprétation des écrits de saint Augustin, notamment sur la grâce, et qui vise à réserver la grâce pour quelques-uns seulement, les plus parfaits, qui sont élus comme tels. C'est un certain rigorisme moral qui est très exigeant, très restrictif, et qui s'appuie beaucoup sur une pastorale de la peur, en développement notamment des thématiques sur l'enfer, sur le péché mortel, sur le purgatoire, pour conduire les personnes par la peur à avoir une vie morale parfaite.
Donc ça a imprégné Sainte-Thérèse de Lisieux. Est-ce qu'on a des traces dans ses écrits?
Oui.
Est-ce qu'étant enfant, elle avait, je sais pas, peur de l'enfer, peur de...
Oui, ça a été très présent, pas du tout à cause de ses parents, qui baignaient pas du tout dans cette ambiance-là, grâce à Dieu, mais à cause des prédications qu'elle a entendues, et notamment les retraites qu'elle a reçues au moment de la préparation de sa première communion, par exemple.
Racontez ça, c'est vrai que c'est fou.
On a les titres qui sont assez fous. Donc, effectivement, l'enfer, le purgatoire, le péché mortel. Le péché mortel, quand on communie, qui redouble encore. Et puis, une histoire qui, manifestement, a traumatisé la petite Thérèse, c'est l'histoire d'une enfant qui meurt en état de péché avant de se confesser, avant sa première communion. Et ça, elle était toute petite, elle devait avoir 9-10 ans, et elle a été effectivement traumatisée par ce genre d'histoire.
Donc ça, c'est la définition du jansénisme. Et en quoi donc Thérèse de Lisieux, on va dire, a été une réponse à cette grande réalité? Et est-ce qu'elle a été peut-être, je ne sais pas, c'était vraiment enfin, une surprise au milieu d'une ambiance janséniste? Peut-être, on imagine qu'il y avait d'autres forces qui traversaient peut-être l'Église pour essayer de combattre le jansénisme, ou du coup, quelle est la fine pointe de...
Oui, à cette époque-là, encore une fois, grâce à Dieu, l'Église et notamment le Saint-Père étaient vraiment dans un combat contre le jansénisme qui me semble très important, qui semble essentiel. Hein, elle a vraiment répondu en s'appuyant notamment sur la doctrine de saint François de Sales, dont ses parents étaient imprégné, hein, cette doctrine de l'amour, cette doctrine de la tendresse du Seigneur.
Donc grand saint français du XVIIe siècle, c'est ça?
Voilà, voilà. Et elle a quand même développé sa compréhension personnelle de la grâce, de la présence du Seigneur, et ça culmine dans la doctrine de la petite voie.
Alors,
la doctrine de la petite voie. Je vous l'explique rapidement parce que c'est vraiment... l'un des éléments les plus importants de la doctrine de la petite Thérèse, hein, dans ses manuscrits autobiographiques, elle raconte qu'elle voulait vraiment être sainte, qu'elle voulait vraiment être proche du Seigneur, qu'elle voulait être une grande sainte, mais qu'elle a découvert, qu'elle a compris qu'elle était incapable de gravir l'escalier de la sainteté et d'aller de vertu en vertu, que les marches étaient trop hautes pour elle. Alors, elle s'est dit, si j'ai un si grand désir, et si je suis incapable de gravir l'escalier de la sainteté, c'est qu'il y a un autre chemin.
Elle prend l'image de l'ascenseur.
Et elle prend une image
fort
typique du 19e.
Du contexte, oui.
Et oui, typique du 19e, l'ascenseur. Et elle dit, voilà, si j'ai ce désir, s'il est si fort, c'est qu'il vient de Dieu. Il n'y a pas de grand désir qui ne vienne de Dieu. L'escalier, j'en suis incapable. Forcément, il y a un ascenseur. Et alors, elle cherche l'ascenseur et elle finit par tomber sur des extraits de la Sainte Écriture qui lui font sentir quel est cet ascenseur. Et elle finit par dire, l'ascenseur, ce sont vos bras, ô Jésus. Et pour attirer vos bras, il faut que je sois petite. Et il me semble que la fine pointe de ce texte, c'est vraiment la fin. Non seulement il faut que je reste petite, mais il faut que je le devienne chaque jour davantage.
Donc, la voix, on appelle ça quoi ?
La petite voix.
Ou la voix de l'enfant.
La voix d'enfant spirituel. Surtout, ce qui est important, il me semble vraiment, c'est cette conclusion. Hein. Il faut que je devienne chaque jour plus petite. Pourquoi ? Parce que la petitesse attire la miséricorde. Hein, ça fait craquer le cœur du bon Dieu, d'une certaine manière. Et donc, elle se reconnaît toute petite, elle se reconnaît incapable, elle reconnaît qu'elle a les mains vides, elle reconnaît qu'elle n'est pas digne de la grâce, qu'elle n'en sera jamais digne. Et donc, elle prend le contre-pied du jansénisme.
Alors, ses écrits donc, ont été publiés peu de temps après sa mort.
Oui.
Ils ont connu, donc il y a tout de suite un grand succès. Est-ce qu'on sait la manière dont a été reçue cette petite voix ? Je ne sais pas, pour toute une partie du clergé, non, ça a été un scandale, ou en tout cas, on sait que ses écrits ont tout de suite eu un succès important.
Oui, le succès a été très rapide. Les carmélites, qui ne s'attendaient pas du tout à cette diffusion, hein. On a le retour qui est assez drôle. Vous savez qu'à la mort d'une carmélite, encore aujourd'hui, on écrit une petite notice biographique. Et quand la petite Thérèse est morte, une des sœurs du Carmel a dit « Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir écrire sur notre petite sœur ? Elle n'a rien fait de sa vie. » Et alors, heureusement, les sœurs de sang de Thérèse qui étaient au Carmel, elles avaient compris qu'il y avait vraiment un trésor. Et donc, elles avaient demandé à Thérèse d'écrire sa vie. Ce sont les manuscrits autobiographiques, l'histoire d'une âme. Elles avaient recueilli tous ses écrits et même ses dernières paroles, ce qu'on appelle les derniers entretiens. Et donc, on a toute une somme de textes. Et comme elles l'avaient compris, elles ont assez vite publié les manuscrits autobiographiques et ça a été un succès extraordinaire.
Voilà, comme je le disais en introduction ou dans le teasing de l'émission, comme le succès tout à fait surprenant, parfois même pour des non-chrétiens qui ne s'expliquent pas comment des eaux de cette sainte qui sont, on va dire, en voyage un peu partout dans le monde attirent à chaque fois des dizaines et voire des centaines de milliers de personnes, et ce depuis maintenant un certain nombre d'années. Alors la deuxième grande réponse, c'était le scientisme. Vous avez commencé à en parler, c'était donc cette ambiance. Je crois qu'une des grandes figures que vous citez, c'est donc Ernest Renan. Vous pouvez peut-être préciser, ambiance où on se disait à cette époque, d'ailleurs ça peut faire écho un peu à certaines conclusions du transhumanisme actuel, ou en développement, la science va réussir à tout expliquer, et c'était comme une forme de dépassement en fait de la religion.
Oui, la connaissance du réel pour les scientistes, ne peut être atteinte que par la science, et la science suffit à résoudre tous les problèmes philosophiques, tous les problèmes de la vie. La science arrivera à tout résoudre. C'est la logique du scientisme. Elle est très profonde dans ce 19e siècle. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment l'avènement de la science. C'est vraiment le moment où la science commence à obtenir de vraies réponses qui sont convaincantes. Et tout le développement de la révolution industrielle, des deux révolutions industrielles, est lié à cette puissance nouvelle de la science qui prend donc une importance fulgurante et qui prend aussi toutes les mentalités. C'est une mentalité nouvelle qui se déploie dans ce 19e siècle. Donc c'est la toute-puissance qui est derrière, la toute-puissance de l'homme. Hein, c'est l'homme qui met la main sur l'arbre de la vie. C'est l'homme qui met la main sur la vie. C'est l'homme qui met la main sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc c'est la toute-puissance qui est derrière.
Et alors la réponse de Thérèse de Lisieux, là on se dit qu'est-ce qu'une carmélitaine a bien pu faire du fond de son couvent pour répondre au scientisme, mais vous avez une réponse.
Oui, et la réponse est très belle, c'est une citation de ses manuscrits autobiographiques. Un savant a dit « Donnez-moi un levier, un point d'appui et je soulèverai le monde ». Ce qu'Archimède n'a pu obtenir parce que sa demande ne s'adressait point à Dieu et qu'elle n'était faite qu'au point de vue matériel, les saints l'ont obtenue dans toute sa plénitude. Hein, elle reprend la tentation de son siècle. Hein. les scientifiques, en tout cas certains scientifiques, voulaient soulever le monde, voulaient expliquer le monde par leur seule raison. Et elle répond, le Tout-Puissant a donné au saint pour point d'appui lui-même et lui seul, et pour levier l'oraison qui embrasse d'un feu d'amour, et c'est ainsi que les saints ont soulevé le monde, c'est ainsi que les saints encore militants le soulèvent, et que jusqu'à la fin du monde, les saints à venir le soulèveront aussi. C'est-à-dire que la vraie réponse aux problèmes du monde, aux problèmes qui sont dans le cœur de l'homme, ce n'est pas la science qui va l'apporter, hein, c'est la grâce.
Alors expliciter peut-être, c'est-à-dire que scientisme et grâce, l'un triomphe de l'autre avec aisance?
Alors l'un triomphe de l'autre avec aisance, c'est pas si évident que ça, tout simplement il suffit de regarder notre monde, hein, pour voir à quel point le scientisme est encore présent, encore tant de nos contemporains sont convaincus que, et le transhumanisme que vous citiez en est vraiment l'expression actuelle, hein, que la science va répondre à toutes les questions. Ce qu'on voit actuellement, et ce qu'on voyait déjà en son temps, hein, c'est que la science ne donne pas de réponse au pourquoi des réalités. Hein, toutes les questions les plus existentielles, les plus profondes du cœur de l'homme ne trouvent de réponse que dans l'infini de la grâce, que dans l'infini de l'amour de Dieu, et c'est là-dessus que Thérèse insiste.
Est-ce qu'il n'y a pas autre chose aussi qui peut faire la transition avec le dernier point qu'on voulait aborder, qu'on appelle le nihilisme, et qui peut trouver un écho dans le cœur d'un certain nombre d'auditeurs? On peut avoir l'impression parfois que c'est le progrès, les grandes découvertes scientifiques qui font l'histoire. À entendre Thérèse de Lisieux là, dans cette phrase, ce serait en fait la prière, les priants, les gens qui posent des grands actes de foi, qui feraient l'histoire.
Oui,
est-ce que vous pouvez expliciter cela?
L'histoire est ailleurs. L'histoire est ailleurs. Hein, la grande logique marxienne, de la lecture marxienne de l'histoire, c'est de lire l'histoire en mettant comme frise de base qui permet de tout expliquer la logique économique. Hein, l'histoire est ailleurs, c'est-à-dire l'histoire, elle est dans le cœur des hommes. L'histoire, elle est dans ce que chaque homme fait de sa vie et comment il offre sa vie aux autres. C'est dans ce que chaque société fait de son développement et comment elle s'ouvre au monde. L'histoire, elle est là, et c'est ça qui va rester gravé. Hein, c'est la vie des saints qui reste gravée. Et dans l'éternité, c'est la vie des saints qui resplendira.
Voilà, ça demanderait des développements, mais je vois le temps qui passe. Alors, troisième grande réponse, non pas que ce soit pas compréhensible, hein, c'est pas du tout ce que je voulais dire, mais c'est toujours à creuser. Dernière réponse, c'est donc le nihilisme. Alors, le nihilisme, c'est pareil, il faut que vous recontextualisiez. C'est l'émergence donc d'un certain nombre de philosophies à cette époque. Peut-être le philosophe le plus représentatif de cette époque nihiliste, c'est donc Nietzsche. Est-ce que vous pouvez résumer en quelques phrases ce nihilisme qui traversait ce 19e siècle et peut-être la pensée de Nietzsche et du coup ce qui imprégnait, on imagine, un peu la société française ou les élites à l'époque?
Oui, alors c'était effectivement très présent. Ce nihilisme est une doctrine philosophique, non plus théologique, mais philosophique, qui est fondée notamment sur la pensée de Friedrich Nietzsche, qui nie toute valeur, toute croyance, toute réalité substantielle, qui fait le vide. C'est une volonté, à la base, c'est une volonté de puissance, de contrôler le monde, qui crée ses propres valeurs et qui se rend compte que finalement, ses propres valeurs sont vides, que rien n'est stable, qui croit donc que tout est fluide, que Dieu est mort, que ne subsiste aucune réalité essentielle, et finalement qu'il faut être un surhomme pour traverser ce monde.
Ce qui était une grande nouveauté dans l'histoire.
Ce qui était assez neuf dans l'histoire, et ce qui a rassemblé beaucoup de personnes qui doutaient, et on voit bien combien c'est lié au scientisme. C'est-à-dire que cette puissance de l'intelligence qui se développe de manière nouvelle dans les sciences, si elle s'absolutise, elle ne conduit qu'au néant.
Alors la réponse, c'est pareil. En quoi Thérèse de Lisieux est une réponse? On imagine qu'elle connaissait peut-être même pas l'existence de Nietzsche.
Effectivement, on pense qu'elle ne le connaissait pas. Elle a fait quand même relativement peu d'études. Elle a été très protégée par son père et par ses grandes sœurs, notamment du fait du décès de la maman. Elle est allée un petit peu dans un collège pour faire sa formation, mais elle a reçu beaucoup de cours à domicile. Et donc, la petite Thérèse était très protégée de tout ça. Et c'est d'ailleurs une réponse à la question que vous posiez tout à l'heure. Est-ce qu'elle était soucieuse de ce qu'a vécu le monde ? Mais on le voit là, parce que c'est évident qu'elle a vécu de l'intérieur cette crise du nihilisme.
Alors, c'est-à-dire, expliquer ?
Elle a vécu, notamment la dernière année de sa vie, elle a vécu une crise au niveau de sa vie de foi qui a été absolument terrible. C'est-à-dire qu'elle était... Le moteur de sa vie spirituelle, c'était l'amour du ciel. Hein. Depuis son enfance, elle a aimé le ciel. Elle voulait aller au ciel.
On sait cette remarque qu'elle faisait à sa maman, je crois. Hein, elle avait dit à sa mère, « Je voudrais que vous mouriez.
Ouais. »
Laissant entendre que comme elle savait qu'elle était promise à aller au ciel, étant enfant, elle avait même ces remarques très surprenantes.
Ouais. Elle était vraiment polarisée par cet amour du ciel. Et puis arrive à un moment, c'est sans doute une chose dont vous parlerez dans le cycle d'émissions, hein, une nuit de la foi. Jean de la Croix explique très bien cela. Une nuit de la foi, et ce goût du ciel lui est quasiment retiré. Et donc, elle vit une période de crise qui est absolument terrible. Elle vit une période de vide intense, de vide spirituel. Et elle a d'ailleurs cette phrase qui est surprenante, hein. « Je chante simplement ce que je veux croire. » C'est-à-dire qu'au fond, il ne reste plus que cette volonté de croire. Cette volonté qu'elle arrache à ses tripes, hein, parce qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus de lumière. Et donc c'est une période de vide absolument terrible, intense, qu'elle assume. Et c'est là ce qui est fort.
Et il se trouve qu'elle est malade en plus à cette époque.
En plus, à ce moment-là, elle est malade, elle sait qu'elle va mourir. Et c'est à ce moment-là que, d'une certaine manière, les lumières s'éteignent. Et reste au fond de sa vie, de sa vie spirituelle, reste « je veux croire ». Je veux croire. Elle assume le vide. Le vide, c'est pas seulement la société qui est à l'extérieur. Elle l'assume elle-même. Elle exprime d'ailleurs d'une manière très très forte cela. Hein. Elle dit « Je mange à la table des pécheurs ». C'est-à-dire qu'elle sait que le péché de son époque, c'est ce refus de Dieu. Et donc ce vide intense. Et plutôt que de rester loin en disant « Moi, je suis avec le Seigneur et je suis tranquille finalement. » Non, je suis pas tranquille au loin. Je suis avec vous. Et avec vous, je mange à cette table des pécheurs. Je suis dans le vide avec vous, mais avec vous et pour vous, surtout, je crois. Je choisis de croire.
Donc la réponse au nihilisme, c'est de choisir de croire, c'est de vouloir croire, c'est de faire un pas dans le vide, en fait, c'est ça.
Oui, c'est ce pas dans le vide. C'est de mettre au fond... vous savez, je pense qu'un des éléments qui a vraiment transformé les mentalités, c'est Descartes. Hein, je pense, donc je suis... À la base, c'est le jeu. Et Thérèse, au fond de son trou, la base de sa vie, c'est pas je, même s'il y a je crois, hein, c'est le Christ. C'est lui qui s'impose. Et c'est dire, mais au fond de nos ténèbres, il y a la lumière du Christ. Je choisis de croire. Et ce qui est le plus profond, c'est pas les ténèbres, c'est l'amour du Seigneur.
Ah, peut-être une dernière question avant qu'on fasse une deuxième pause. Ce qui semble déroutant là, dans la manière dont vous présentez à Sainte Thérèse de Lisieux et donc, on va dire, le rôle qu'elle aurait eu à jouer dans l'histoire, c'est qu'on a l'impression qu'en fait tout ça se fait, on va dire, comme par défaut, c'est-à-dire qu'elle n'a absolument pas conscience. Vous disiez qu'elle avait pas fait beaucoup d'études, elle connaissait même pas Nietzsche, et Dieu donne une réponse à travers elle, et elle n'a pas du tout conscience en fait que Dieu est en train de parler à travers elle et de donner une réponse pour presque pour le monde et pour l'Église universelle, en tout cas, puisqu'on l'a fait aujourd'hui.
Elle en a un petit peu conscience. Elle en a un petit peu conscience. Elle le dit dans ses écrits. Elle le dit à ses sœurs. Et c'est assez surprenant. Et quand ses sœurs viennent, je crois, couper ses cheveux, gardez-les, ça fera plaisir. Des petites choses comme ça. Elle sent
qu'elle est appelée à quelque chose de grand.
Oui, elle sent que dans ce qu'elle vit intérieurement et dans ce qu'elle dit à travers ses écrits, elle sent qu'il y a quelque chose de grand. Et qu'il y a quelque chose qui est pour le monde. Mais justement, au moment même où elle le vit, elle sait que ça la dépasse complètement. Et c'est là où on voit l'œuvre de l'esprit, et c'est là où on voit l'esprit qui se saisit d'une personne pour en faire une parole pour le monde.
Voilà, trésor de la vie spirituelle. C'est pas la fin de l'émission, vous restez avec nous. On va essayer de voir peut-être, fort de ce qui a été dit jusque-là, l'actualité de Thérèse de Lisieux pour notre temps. Peut-être poser quelques questions au frère Maximilien, en quoi c'est un guide pour elle, et puis quelques conseils pratiques pour faire davantage connaissance avec cette grande sainte.
suffirait d'un rien, peut-être. En tout cas, de bien peu de choses, d'une fleur fraîchement éclose, d'un espoir sur le point de naître. Il suffirait d'un rien, peut-être, et j'oserais dire je t'aime. Il suffirait d'un rien, sans doute, d'un clin d'œil, de mains ouvertes, simplement d'une vie offerte, de quelqu'un qui croise ma route. Il suffirait d'un rien, sans doute, et j'oserais dire je t'aime. Rien de chance, d'un vieux refrain qui me revienne, de ma chanson qui devient tienne, d'un simple écho de mon enfance. Il suffirait d'un rien de chance, et j'oserais dire je t'aime. Il suffirait d'un rien, d'un ange, d'un mot, d'un regard ou d'un geste, d'une étoile au cœur qui me reste, d'un pain partagé que l'on mange. Il suffirait d'un rien, d'un ange, et j'oserais dire je t'aime.
Présence dans le Comminges, 94.1.
Emmanuel Pella.
Trésor de la vie spirituelle, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin avec le frère Maximilien Marie, religieux carme du couvent de Toulouse, et nous parlons de Sainte Thérèse de Lisieux en ce 1er octobre. Je vais vous poser la question, pas tout à fait dans le même ordre que ce qu'on avait prévu. Sainte Thérèse de Lisieux, c'est, on va dire, pour un journaliste voilà, qui travaille dans les médias chrétiens, c'est souvent un sujet qui revient. Vous ne vous lassez pas de lire, de creuser les écrits de Thérèse de Lisieux. Comment est-ce que vous pourriez nous aider peut-être à persévérer pour ceux qui se disent « Ah, encore une émission sur Thérèse de Lisieux ».
Encore une émission sur Thérèse de Lisieux. Oui, je crois qu'elle est vraiment... Elle a été saisie par l'Esprit-Saint. Elle est elle-même dépassée par ce qu'elle écrit. Et du coup, il y a toujours à puiser dans ses écrits. Vous savez que ses écrits, c'est un vrai petit pavé. Hein. Il y a 800-900 pages. Donc il y a toujours une sagesse à découvrir entre les lignes. Et il faut y a dire toujours beaucoup à recevoir.
Il faut dire qu'elle a écrit à la demande de sa supérieure.
Voilà, alors elle a écrit... ce qu'on appelle les manuscrits autobiographiques ou l'histoire d'une âme à la demande de ses supérieurs. On a toutes ses lettres, en tout cas une grande partie de ses lettres. On a ses prières, on a ses poèmes, donc on a plein de choses d'elle. Donc on peut toujours apprendre et découvrir dans ses écrits.
Alors pourquoi est-ce que pour vous, Thérèse de Lisieux est particulièrement d'actualité ? On aurait pu commencer par ça, hein, pardon. Vous me disiez en préparant l'émission que c'est difficile de ne pas considérer, d'ailleurs nombre de personnes le disent, hein, même à commencer par les papes, que l'on vivrait dans une époque relativiste et donc qu'il y aurait comme une forme de nihilisme que vous décriviez précédemment, d'où l'urgence ou l'actualité de Thérèse de Lisieux.
Oui, je le crois. J'ai été pour ma part marqué lorsque vous avez accueilli Jean-Luc Marion à l'Institut catholique il y a peut-être 6 ou 8 mois. Jean-Luc Marion, qui est donc philosophe à Paris, qui est un philosophe catholique, et qui présentait son ouvrage « Brève apologie pour un moment catholique ». Et moi, j'étais convaincu qu'on était surtout dominé par la philosophie d'Emmanuel Kant. Et puis finalement, lui a beaucoup développé une autre réalité. Il a montré que nous sommes dans une époque surtout nihiliste. Le vide domine dans notre époque. Et notamment, il a eu deux arguments qui m'ont semblé vraiment... vraiment étonnants, qui m'ont surpris et qui m'ont vraiment convaincu. Le premier, c'est sur le profit, cette recherche de profit.
Pourquoi la croissance.
La croissance, oui. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on est toujours à la recherche de la croissance? Quel est l'objectif? Si on écoute bien, aussi bien les économistes, aussi bien les commentateurs, En fait, il n'y a plus d'objectif. C'est la croissance pour la croissance. On veut la croissance pour la croissance.
Ça peut être la création d'emplois. On espère toujours que ça va créer
voilà,
des emplois.
Voilà, il y a la création d'emplois. Mais en même temps, on a l'impression que c'est comme un cycle qui se nourrit de lui-même. Il faut le profit pour le profit. Il faut toujours plus de profit. Il faut toujours plus de croissance. Et quel est le sens? Et ça nous échappe un peu, en fait. Ça nous échappe un peu. Et on a l'impression qu'il y a vraiment une absence de sens. Et l'autre argument qu'il a cité, qui m'a semblé alors là, vraiment étonnant et en même temps très intéressant, c'est les ravages d'Al-Qaïda. Quand Al-Qaïda passe, Al-Qaïda détruit toutes les traces de culture. Après Al-Qaïda, c'est le vide. Al-Qaïda est comme...
Plus qu'un islamiste, un islamisme, c'est un nihilisme.
Et c'est ça, c'est destructeur. C'est destructeur. Et donc c'est vraiment un produit de notre époque. Et bon, alors il n'y a pas besoin d'aller à la Bourse de Paris ou en Syrie pour voir ça. Hein. Il suffit de voir dans notre monde combien l'absence de Dieu, d'abord, l'absence de valeur aussi. Et il suffit d'avoir des discussions à droite, à gauche, avec des étudiants, avec des personnes qu'on croise dans la rue, des gens qui en souffrent d'ailleurs. La vie, souvent, est vide. D'où une vraie tristesse. Et je crois que Thérèse apporte une vraie réponse. Non pas, encore une fois, en disant « moi, je vais vous dire la vérité, je vais vous annoncer ce qui répond à vos problèmes ». La première chose qu'elle fait, ce n'est pas ça. La première chose qu'elle fait, c'est « je mange à la table des pécheurs ». C'est très, très important de comprendre ça. Hein, la petite Thérèse n'est pas loin. Elle mange à la table des pécheurs. C'est-à-dire, avec nous...
Elle vit de l'intérieur ce que vit... Ça vit tout à chacun.
Voilà, c'est ça. Avec nous, elle souffre de ce vide, de cette absence de sens, de cette absence de valeur. Et elle commence par assumer ce que nous vivons. Et elle est assise à la même table que nous. Et de là, elle nous dépose avec beaucoup de délicatesse, en étant assise à côté de nous, elle nous dépose sur la table « je crois ». Et c'est un « je crois » qui est arraché de ses tripes, donc dans la douleur, et qui, en même temps, est plein de confiance, donc de sérénité. Et je crois qu'on ne peut recevoir la beauté de la foi que dans cette proximité, dans cette simplicité. Et c'est pour ça qu'elle répond au monde aujourd'hui.
Voilà, et puis une fois qu'elle est posée, une fois immense, c'est vrai.
Oui,
absolu de la foi. C'est...
Oui, mais qui ne fait pas peur. Et je crois que c'est très important. Qui ne fait pas peur parce que, on rejoint la petite voix, hein, qui ne fait pas peur parce que son objectif, c'est d'être toujours plus petite. Donc l'objectif n'est pas de gravir les montagnes, l'objectif n'est pas de devenir parfait. Et là encore, c'est une réponse aux questions et aux exigences de notre temps, où il faut toujours être plus parfait, il faut toujours mieux réussir, il faut toujours être plus parfait physiquement, il faut toujours avoir une plus belle voiture, il faut toujours avoir un emploi plus intéressant. Et finalement, il y a une exigence de perfection qu'on n'arrive plus à suivre. Et Thérèse dit, c'est pas ça qui vous rendra heureux. C'est d'être plus petit chaque jour, d'être plus simple, d'être toujours plus vous-même. Là, on a encore une vraie réponse au défi de notre temps.
Voilà, j'allais dire, enfin, le commentaire que ça m'inspirait, c'est que peut-être que la première marque des saints, c'est qu'ils nous aident à redécouvrir que Dieu est profondément déroutant et n'est pas celui que l'on imagine, en fait. C'est comme si on devait toujours réapprendre, en fait, à comprendre qui est Dieu, non ?
Oui, ne croyons pas que nous connaissons Jésus-Christ. Celui qui dit qu'il connaît Jésus-Christ, généralement, il est à côté de ses pompes. Enfin, excusez-moi l'expression, mais le Christ nous surprendra toujours. Il est la nouveauté par excellence. Et si le Christ ne nous surprend plus, si notre foi ne nous surprend plus, il faut qu'on se pose des vraies questions alors.
Pour finir, qu'est-ce que vous donneriez comme piste à la fin de cette émission pour ceux qui voudraient prolonger par quelques lectures? On imagine qu'on ne peut pas forcément se lancer dans les 800 pages que vous décrivez, ou alors il faut peut-être l'avoir à portée de main pour piocher à droite à gauche. Je sais pas, comment est-ce que vous conseilleriez de...
Il faut se lancer dans l'histoire d'une âme. Hein, l'histoire d'une âme sont les manuscrits autobiographiques. Hein, ce sont trois cahiers qu'elle a écrits, où elle raconte tout simplement sa vie. Et beaucoup de gens sont un petit peu énervés par le côté un peu enfantin de la petite Thérèse. En fait, quand on prend conscience de son quotidien et puis du contexte culturel et familial dans lequel elle a vécu, on comprend un petit peu mieux. Il faut essayer de passer un petit peu au-delà de de ce contexte un peu enfantin et de voir la sagesse spirituelle qui se dégage dans ses écrits. C'est vraiment par cela qu'il faut commencer, hein, les manuscrits autobiographiques, le manuscrit A, et puis essayer de s'imaginer dans quel contexte elle a vécu et d'écouter ce qu'elle a à nous dire. Hein, elle écrit cela quand elle est déjà une carmélite qui a assumé sa vocation. Hein, ce n'est pas seulement le récit d'une enfance facile. Elle décrit aussi ses souffrances et elle montre comment l'Esprit-Saint a fait son chemin dans sa vie et elle nous guide sur le chemin de la petite voie et sur un chemin de tendresse et de vrai bonheur, je crois.
Voilà, Thérèse de Lisieux, qui est aussi la patronne des missions, si oui, je ne me trompe pas, et copatronne de la France. Merci beaucoup, frère Maximilien Marie, d'être venu nous parler de cette grande sainte qu'on n'a pas fini de découvrir. Quelques informations pratiques à la fin de cette émission. Cette émission donc, qui est en partenariat avec l'Institut Jean de la Croix, je l'ai dit à plusieurs reprises. Pour toute information, eh bien, un site internet www.institutjeandelacroix, institut au singulier, institutjeandelacroix, le tout accroché, .org. Et puis, vous vouliez nous dire un petit mot d'un groupe que vous animez, ça concernera peut-être une partie des Toulousains, un groupe qui s'appelle Nathanaël.
Voilà, l'Institut Jean de la Croix propose son certificat de spiritualité. C'est une formation catéchétique, intellectuelle surtout, pour construire sa foi. Il y a d'autres propositions au couvent des Carmes, et notamment un groupe pour étudiants et jeunes professionnels qui s'est réuni un mardi sur deux. Donc mardi 2 octobre, c'est la prochaine rencontre pour étudiants et jeunes professionnels de 18 à 35 ans. L'objectif, c'est en une soirée toutes les deux semaines, avec un temps après l'Eucharistie qui est à 18h50, un repas partagé très simple, un enseignement d'une heure, notamment sur la spiritualité du Carmel, et puis une demi-heure d'oraison, c'est d'aider les jeunes qui viennent nous retrouver avec les frères, d'aider les jeunes à enraciner leur vie toujours plus dans le Christ et dans la prière, avec le soutien de la spiritualité du Carmel.
Voilà, donc n'hésitez pas à en parler de vous si vous avez évidemment des enfants ou si vous connaissez des gens qui rentrent dans cette tranche d'âge. Merci beaucoup. Cette émission était réalisée par Rémi Soulomiac. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.